19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Ah, bonsoir, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. Vous le savez, chers amis, nous sommes ensemble durant une heure. Et durant une heure, et bien jusqu'à 20h, je vais vous proposer un petit programme que je vous ai concocté aujourd'hui, en ce jeudi. Que le temps passe vite d'ailleurs, c'est terrible. Allez, au programme, nous allons revenir sur la ville de Bondy, qui, elle, connaît évidemment quelques difficultés concernant les élections municipales, puisque il y a des petits affrontements, des petits règlements de compte. Et bien, on va tenter de comprendre. Et vous le savez, la règle du jeu dans les informés sur BFM, c'est de donner la parole à tout le monde. Et bien, nous serons avec l'ex-maire adjointe Sonia Aloud-Bakhti, UDI, qui sera avec nous justement pour parler des différents événements qui se déroulent sur la ville de Bondy. Le 01 53 48 3000. Ça n'a pas changé. Vous nous appelez, vos parents. Comment avez-vous vécu cette journée avec vos enfants, le télétravail? Quelle organisation est-ce que vous avez pu vous organiser justement avec cette grosse journée de grève? Les deux sujets qui ont retenu notre attention, 75% des enseignants du primaire sont en grève aujourd'hui. Peut-on parler d'un véritable succès, c'est-à-dire un vrai jeudi noir, puisque le monde de l'éducation était en grève, je le rappelle aujourd'hui, primaire, collège, lycée, c'était la totale. Jean Castex peut se faire du souci. Ou presque. Ensuite, nous parlerons du variant Omicron. Faut-il envisager de laisser courir le virus? C'est la question que je poserai. Ou alors, faut-il le stopper et comment? Ou encore, je poserai une autre question, puisque Omicron reste un virus, certains le disent, quand même contagieux, mais qui peut perdurer. Donc, comment et est-ce que, je poserai la question, peut-on s'en sortir? Concernant cette pandémie, bien sûr, et le 01 53 48 3000, vous le savez. Le quoi de neuf à 19h30, c'est avec le grand Pascal Boniface tout à l'heure, qui viendra nous livrer son billet d'humeur. Et puis le face-à-face, c'est avec Jimmy Dalidou et enfin Abdeslam Itache. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
L'invité du jour, c'est parti, c'est tout de suite.
Les informés, l'interview.
L'interview, vous le savez, c'est sur la ville de Bondy, où il se passe des choses. Là, mon Dieu, que se passe-t-il? La fresque qui est à l'honneur de Kylian Mbappé, elle est vandalisée. Les querelles politiques dans le cadre des réélections municipales, eh bien, il y a des petits affrontements, des petits règlements de compte. Bref, je parlerai aussi de cet incident avec la profanation des églises de Romainville et de Bondy. Darmanin et le préfet au chevet des fidèles. Que se passe-t-il sur la ville de Bondy? Eh bien, on va en parler avec l'ex-maire adjointe, Madame Sonia Bakhti Aloud. Bonjour.
Bonsoir, bonsoir chère auditrice, chers auditeurs. Bonsoir mon cher Adil.
Bonsoir, bonne année.
Merci pour l'invitation et j'aimerais aussi vous souhaiter une très bonne année, également à toute la communauté berbère. Et comme on dit, Asgaz, Amgaz.
Exactement. Dites-moi, ma chère Sonia, vous êtes l'ancienne maire adjointe, donc récemment, il y a une réélection sur la ville de Bondy. D'abord, oui, cette actualité toute récente, la profanation des églises sur la ville de Romainville et de Bondy. Un mot, puisque Darmanin et le préfet risquent de se rendre dans l'église donc, qui a été frappée, comme celle de Bondy, par des actes de vandalisme il y a quelques jours.
Écoutez, oui, nous avons exprimé toute notre solidarité aux prêtres. Et officie justement l'église Saint-Pierre. Donc un échange a eu lieu autour de ce début d'année. Mais voilà, on condamne le vol qui a été commis dans l'enceinte de ce lieu sacré.
Vol et dégradation commis dans l'église donc des deux villes, notamment. Vous, absolument. Vous les avez condamnés. Mais
oui, tout à fait.
Aujourd'hui, il règne une ambiance quand même assez particulière sur la ville de Bondy. Est-ce qu'on a une explication entre l'église, entre la fresque en l'honneur de Kylian Mbappé, qui a été elle aussi vandalisée, et notamment le joueur menacé? Mbappé était mort, vous en avez entendu parler, ça ne vous a pas échappé. Certains, évidemment, disent que c'est des querelles politiques qui se transforment, évidemment, par des petits règlements de compte comme ça. Vous répondez quoi?
Écoutez, moi je condamne fermement ces actes lâches. On connaît, vous savez, ma famille est à Bondy depuis plus de 70 ans, donc on connaît la famille de Kylian Mbappé, on y a grandi, Et tous les Bondinois aiment beaucoup Kylian Mbappé. Donc pourquoi on voudrait sa mort ? Donc non, on condamne ces actes et ces faits, mais...
Certains se posent la question, et notamment, vous savez, avec cette déclaration, avec ce tag où il est, on peut lire, hein, justement, sur la fresque, Thomasin, l'ancien maire aussi de Bondy, Nicta, voilà, NTM. C'est pour ça qu'il y a eu cette association à la fois de Kylian Mbappé, la proximité de Sylvine Thomasin et la maman de Kylian Mbappé, et tout ça, évidemment, avec des règlements de compte locales. Règlement de compte locaux, pour le coup.
Écoutez, aujourd'hui, Kylian Mbappé, il fait le bonheur du PSG et de l'équipe de France. Alors, concernant les tags, pendant plus de 18 mois, aucun tag sur toute la ville. On avait plutôt retrouvé un climat apaisé et calme. Mais c'est vrai que là, la veille des élections, les tags apparaissent. Et oui, je condamne toutes ces menaces, tous ces tags. Qui à l'époque, d'ailleurs, je tenais à le préciser, j'ai moi-même été menacée de mort. Et hélas, malheureusement, à aucun moment, Madame Thomasin les a condamnés. Je suis quand même aussi une femme. Je fais aussi de la politique. Et voilà, malheureusement, oui. La lâcheté, oui, je condamne. Nous condamnons. D'ailleurs, le maire sortant, Monsieur Stéphane Hervé, l'a fait aussitôt.
Alors justement, vous êtes en pleine campagne dans les prochains jours, justement, prochainement. Il y a donc cette réélection sur la ville de Bondy, la réélection des élections municipales. Comment ça se déroule et dans quel état d'esprit vous êtes, vous, avec Stéphane Hervé ?
Écoutez, nous sommes très bien, confiants par rapport à ce début de mandat, on va dire. Vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote qu'une jeune m'a dit, et du coup c'était pour moi une intervention très pertinente venant d'une petite jeune qui me dit: mais tu sais Sonia, en 15 mois vous avez fait ce que Madame Thomasin n'a pas pu faire en 20 ans de mandat. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant venant d'une petite jeune.
Oui, une jeune.
Ce bilan est là. Nous avons prouvé en 15 mois aux Bondinois et aux Bondinoises qu'on était capable de gérer la ville en termes de sécurité, de propreté, en termes d'éducation. Donc voilà, le bilan, le début de mandat est plutôt positif et nous sommes très confiants pour l'avenir des Bondinois et des Bondinoises.
Comment se déroule la campagne en ce moment ?
Écoutez, elle se déroule très bien, très bien. Les retours sont plutôt positifs. Et voilà, donc les Bondinois sont prêts de nouveau pour retourner aux urnes dès le 23 et le 30 janvier.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Bondinois justement qui vous écoutent, parce qu'ils sont nombreux, vous savez, on a une grosse audience chez vous là-bas sur la ville de Bondy.
Alors moi j'aimerais rétablir aussi la vérité en disant que le Conseil d'État a bien confirmé dans sa décision qu'il n'y a pas eu de fraude électorale. Je prendrai l'exemple d'une ville voisine qui est gérée justement par un socialiste, oui, et qui a gagné avec plus de 1000 voix. Et donc, à cause d'une irrégularité, donc le code électoral a tranché et ils ont été obligés de repartir aux urnes. Et donc, à aucun moment, les adversaires ont traité ce candidat de tricheur. Donc on peut pas, en fait, en politique et surtout dans une élection, c'est pas la première et ce sera pas la dernière, on peut pas jouer avec le code électoral. On peut pas faire n'importe quoi avec le code électoral.
Bon, en tout cas, moi j'ai sous les yeux le Conseil d'État qui a rendu donc la décision. Hein. C'était la plus haute, rappelons-le à nos auditeurs, la plus haute juridiction administrative qui avait confirmé le jugement du tribunal administratif de Montreuil que il y avait bien eu annulation des élections municipales de mars et juin 2020. Et donc, c'est la raison pour laquelle les Bondinois sont appelés désormais à revenir aux urnes pour prendre une nouvelle décision et réélire un nouveau maire, donc concernant l'avis du rapporteur public. Voilà.
Exactement, exactement.
Merci d'avoir été avec nous, Sonia Bakhtialout, ex-maire adjointe de la ville de Bondy. Et écoutez, de toute façon, on est amené à se reparler puisque nous allons suivre cela avec beaucoup d'attention. Et je le rappelle, effectivement, le Conseil d'État avait validé les irrégularités. Hein. Donc c'est pour moi qu'il le dit, c'est le Conseil d'État.
Irrégularités entre les deux tours. Et vous savez qu'il y a une personne aussi, à titre personnel, qui a distribué un tract en dehors de la période légale avec propagande abusive, qui rappelle justement sur le tract que Madame Thomasin fait l'objet d'une enquête préliminaire pour prise illégale d'intérêt auprès de la BRDE, je ne sais pas si je peux préciser, donc Brigade de répression de la délinquance économique, suivie par le procureur de la République. D'ailleurs, on le saura un peu plus tard, beaucoup de ces anciens élus ont été entendus et on fait confiance à la justice.
Merci d'avoir été avec nous, Sonia Bakhti-Alout. Merci et bon courage à vous sur le terrain, effectivement.
Merci.
Bonne à très bientôt. Bonne soirée. Nous allons nous retrouver juste après la pause pub avec, justement, bonsoir Jimmy Dalidou.
Bonsoir Adil.
Comment
bonsoir
ça va?
Ça va, et où?
Notre syndicaliste CGT Gilets jaunes.
Tout à fait.
C'est
mais,
comme ça.
Mais hauteur aussi.
Mais hauteur aussi, absolument. Il y tient, hein. Il y tient, il a raison.
Mais hauteur, et hauteur. Et hauteur.
Et hauteur. Bah, oui. Oui, c'est ça.
Comme ça, les lecteurs...
Abdeslam Itach, bonsoir.
Bonsoir Adil, bonsoir aux auditeurs.
Vice-président du MoDem.
95.
C'est ça, sur la ville du 95.
Non, sur le département.
Département, pardon, ouais, du 95. Eh bien, messieurs, nous allons nous retrouver. 01 53 48 3000, ça, c'est le numéro. Comment s'est déroulée votre journée concernant les enfants, la gestion des enfants, de vos enfants? Évidemment, puisque les collèges, les lycées et les écoles ont connu un mouvement de grève aujourd'hui. On revient en parler tout de suite après la pub.
Les informés reviennent dans un instant. Peur FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
19h16 précisément, si vous venez de nous retrouver, eh bien, soyez les bienvenus, tout de suite le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Et j'ouvre l'antenne, jingle.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Les auditeurs ont la parole, on vous attend. Yanis vous attend au 01 53 48 3000 tout de suite. Concernant l'organisation, donc aujourd'hui, comment avez-vous vécu donc entre le travail, le télétravail, les enfants, la gestion des enfants? Ras-le-bol! Qu'est-ce que c'est que ça, ras-le-bol, Jimmy?
Bah, ça veut dire qu'on en a marre.
Ça, c'est, vous savez quoi, le slogan des enseignants et du personnel, justement, de l'éducation nationale, exaspérés par le protocole sanitaire lié au Covid, qui ont participé très large manifestation, très large grève aujourd'hui, qui demande des réponses au gouvernement. Alors, paraît-il que Jean Castex va y recevoir les syndicats. Que peut-on dire de cette journée, Jimmy Dalidou?
C'est une
syndicaliste CGT.
Très bonne journée, très bonne journée. Bon, c'est pas la première fois que les enseignants mettaient en exergue certaines revendications, hein, notamment
ras-le-bol.
Ouais, tout à fait, ras-le-bol, plus de moyens, plus de des embauches, etc.
Mais là, c'est la gestion.
Ouais, mais il y a quelque chose d'important, c'est qu'il y avait une véritable colère.
C'est la valse des protocoles.
Tout à fait. Non, mais il y avait une véritable colère dans son mouvement des enseignants aujourd'hui, et je dirais que ce qu'il y a de nouveau, entre guillemets, c'est le soutien des parents d'élèves. Mmh. Ça, c'est un bon indice de mesure. D'habitude, on constate que certains parents d'élèves disaient, alors certains appuyaient le mouvement des enseignants, alors que d'autres parents d'élèves disaient, vous faites grève, mais vous avez beaucoup de vacances, etc., etc. Là, on constate, j'étais moi-même cet après-midi avec des camarades enseignants qui m'ont expliqué un peu comment ça se passait. Ils disaient que les parents d'élèves étaient clairement du côté, en soutien des enseignants. Donc ça, c'est très important. Ne serait-ce que pour la Seine-Saint-Denis, plus de 80% de grévistes, une école.
80%?
Plus de 80% rien qu'en Seine-Saint-Denis, une école sur deux fermée. Donc pour moi c'est très bien, un bon départ, mais il faut pas
départ à quoi?
Un bon départ à un mouvement
mobilisation
plus générale je vous annoncerai un peu plus tard le ce qui se passera d'ici la fin du mois. J'espère, oui, j'espère que il y aura une, moi j'en ai marre de ces grèves corporatistes éparpillés. Il faudrait véritablement que nous soyons tous dans la rue, cheminots, enseignants, les gaziers, EDF, les cafetiers, les restaurants, tout le monde, quoi. Le peuple travailleur. Ce qui fait tourner ce pays, c'est le peuple travailleur, en fait.
Et pas que.
Et pas que, mais en tout cas, c'est eux la base. C'est le socle commun du système.
Qu'est-ce que vous dites, Abdeslam Itach?
D'abord, il faut juste restaurer la vérité concernant les enseignants, où on dit qu'ils ne travaillent pas assez. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils enseignent pendant 20 heures, mais ils passent un temps fou à corriger les copies, à préparer les cours. Et ça, c'est du temps que l'on minore. Et Par ailleurs, moi, les enseignants ont tout mon soutien et il faut absolument soutenir les enseignants parce qu'ils s'occupent de l'instruction pour nos enfants. Nous, nous occupons de leur éducation et conjointement avec eux, l'instruction. Et il n'y a pas pire dans une société que de lâcher justement les enseignants qui justement sont dans une vraie difficulté. Vous avez abordé la Seine-Saint-Denis. C'est un département qui accumule.
Tu peux me tutoyer, hein, pas de problème.
Aucun problème, et je prends.
Est-ce que la tension elle monte entre les enseignants et le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer? Est-ce qu'il y a une vraie tension? Il les a reçus
normalement
cet après-midi.
Il y a toujours eu de vraies tensions entre tous les ministres de l'Éducation nationale.
Il est dans la tourmente quand même, Jean Castex. Hein.
Oui, bien. Enfin, Castex.
Blanquer.
Peut-être un peu Castex aussi, mais l'un n'empêche pas l'autre.
Blanquer.
Mais oui, certainement. Ensuite, vous savez que le gouvernement va arriver à terme dans quelques mois ou quelques semaines. Et ensuite, il y aura une élection présidentielle et un nouveau Premier ministre renommera le gouvernement. Que Blanquer soit sur la prochaine liste ou pas, in fine, il arrive au terme de sa fonction de ministre.
Dans la tourmente.
Oui, mais je vous l'ai dit déjà, tous les ministres ont été dans la tourmente. Lionel Jospin, qui a été ministre de l'Éducation nationale, était dans la tourmente, et tous les autres. Je passe par Luc Ferry et autres. Donc il est difficile de réformer l'éducation nationale parce que c'est quelque chose à laquelle la société tient. C'est le fondement même de notre société. Ce sont les citoyens de demain. Et je reviens encore sur ça, il faut absolument soutenir nos enseignants. Et moi, je ne suis pas surpris par le chiffre de soutien des personnes par rapport...
Il a quand même dit quelque chose d'intéressant, Jimmy. Il a dit quand même... Il y a plusieurs mois quand même de crise sanitaire, il y a plusieurs mois de crise, oui. Il y a plusieurs mois d'épuisement, et il y a plusieurs mois d'exaspération.
Mais oui,
c'est pour ça que j'ai employé le... J'ai dit, vous voulez que ça pète.
Mais Adil,
j'ai fait exprès de lui dire ça.
L'exaspération ne s'arrête pas
aux enseignants. C'est surtout ça aujourd'hui. Mais tout le monde, c'est la crise sanitaire qui a engendré justement tout cela.
Le terme de réformer, mais... je pense qu'il faut éclaircir la véritable politique de tous les ministres, quel que soit en fait, que ce soit gauche, droite, tu peux constater que tous les ministres qui se sont succédés ont carrément détruit l'école en fait. Je pense pas qu'il faut qu'on arrête avec cette confusion entre cette fusion qui consiste à dire je vais réformer alors que réformer est égal destruction. Réformer, oui, c'est pas...
D'ailleurs, je demandais à nos auditeurs s'ils soutiennent le mouvement de grève des enseignants. 0153483000, chers amis auditeurs, est-ce que vous soutenez les enseignants aujourd'hui? Alors, j'attends votre appel.
Mais juste pour revenir sur ça, et Jimmy, tu as complètement raison, le problème, c'est qu'on a dégradé les conditions d'enseignement dans le public et on a poussé et encouragé les gens à envoyer leurs enfants dans des écoles privées. C'est ça le vrai drame. Et moi, alors... Pour le coup, moi j'ai fait toute ma scolarité.
Tu peux très bien avoir accédé à une. Tu peux très bien développer
dans le public.
Non, tu peux te développer. Tu peux très bien te former dans une école publique. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut il faut étendre les classes. Il faut qu'il y ait plus de classes. Il faut embaucher plus d'enseignants.
Bien sûr. Et voilà. On le voit bien. Même dans la ruralité.
Au contraire, les licences.
On se retrouve avec des écoles. Vous rendez compte? On se retrouve avec des écoles qui ferment parce qu'il n'y a pas d'élèves. Et les parents sont obligés de faire 20.
En Seine-Saint-Denis notamment.
Non, je parle des villages ici et là, parce qu'il n'y a pas d'enfants.
Zone rurale.
Et on va revenir sur un autre débat, qui est celui des grands ensembles, où justement les gens vivent dans la promiscuité, et de l'autre côté, la ruralité, où vous avez des villages qui se vident. Est-ce que l'un n'est pas la solution de l'autre? Est-ce que permettre à des gens qui habitent justement dans ces grands ensembles de pouvoir accéder à la propriété dans ces villages, pour les repeupler, augmenter le nombre d'enfants et permettre à ce que des classes puissent
continuer. Je pense pas que ce soit la solution.
Mais si, c'est la solution.
Je pense pas que c'est la solution. Il va vous dire pourquoi.
Alors, j'ai rien contre l'accession à la propriété. Hein. Quelqu'un qui est dans un quartier populaire et qui va chier, tant mieux pour lui. Mais d'abord qu'il ait accès à la dignité. D'abord, avant d'accéder à la propriété. D'abord,
mais là, parce que
antagonistes. Et je pense pas que la solution serait de créer une espèce de migration là,
poser la question des quartiers populaires dans les campagnes. Demandez-leur combien de personnes rêveraient un jour d'être propriétaires.
vous serez sur. Non, je veux dire, c'est pas c'est, le problème, c'est pas l'accession à la propriété. D'abord, il faut accéder à la dignité. Il faut d'abord être respecté, être
Je pense, à mon avis, je pense que.
Et ensuite,
on va demander aux auditeurs. On va demander. Est-ce que votre première préoccupation, c'est d'avoir la propriété, d'être propriétaire? 01 53 48 3000 vos auditeurs, partout en France, est-ce que votre priorité aujourd'hui, c'est d'être propriétaire d'une maison
ou un appartement.
Mais j'attends votre appel.
Alors, juste pour
tiens, on va poser la question.
L'auditeur,
moi, je crois que c'est pas la première préoccupation. Moi,
je vois des personnes âgées qui sont locataires et qui ont le minimum vieillesse. À savoir 500 et quelque chose
qui peinent
à payer leur loyer. Posez-leur la question s'ils n'auraient pas été propriétaires plus tôt, si ça avait pas été mieux pour eux. Posez-leur la question.
On va poser la question. Il y a beaucoup d'appels. 01 53 48 3000. Tiens, Abdellah de Sergi. On va poser la question. 01 53 48 3000. Est-ce que c'est votre première préoccupation d'être propriétaire? Abdellah, bonsoir. Abdellah.
Bonsoir, comment à tout le monde, les auditeurs.
Bienvenue, mon cher Abdellah. Alors, dites-moi tout, mon cher Abdellah. Est-ce que votre première préoccupation, c'est d'être propriétaire?
Moi, franchement, propriétaire. On n'est que locataire dans cette vie. Hein. Ici-bas, on n'est que locataire.
Oui.
D'accord. On est là pour un certain temps, une certaine durée de vie, une espérance de vie qui est tout à fait relative.
Oui.
Donc, moi, je pense que voilà, tout le monde souhaite être propriétaire, hein, parce que. C'est un petit peu le schéma comme ça, sociétal.
C'est normal, on a tous le droit de rêver, ça c'est normal.
Voilà, ça peut être un rêve. C'est vraiment une maison de mes rêves, c'est exactement ça. Hein. C'est vraiment la terminologie. Mais bon, c'est pas. En fait, si on a les bonnes conditions financières pour acheter, d'accord, d'avoir un bon apport, etc., il faut le faire. Si après c'est sur ses rêves avec des contraintes financières, des dettes, on sait très très bien que voilà, c'est très compliqué.
C'est ça la réalité, Abdeslam Itach, et oui! Mais vous avez raison, Abdellah. Si c'est pour être propriétaire et de se surendetter.
Non, c'est pas une vie. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, t'es en location, tu peux acheter. J'ai dit ouais, mais bon, moi, il est bien vu que on fait des locations de, je sais pas moi, de véhicules. On fait des locations de, voilà, des saisonnières de vacances. Pour eux, on va faire une location toute sa vie d'une maison. Mmh. Si on a un très bon salaire.
Il veut vous répondre, Abdeslam Itach. Abdeslam Itach veut vous répondre.
Abdallah, je ne remets pas en cause les difficultés liées à l'accession à la propriété et des crédits sur 20-25 ans. Évidemment que ça s'étudie, tout ça. Mais ma première remarque, c'est poser la question aux habitants des grands ensembles si leur rêve, ce n'était pas un jour d'accéder à la propriété.
Tiens,
et vous savez,
attendez, Abdellah.
Par rapport aux retraités qui aujourd'hui ont le minimum vieillesse et qui vivent en appartement dont 80% sert à payer le loyer, on voit bien la difficulté.
Jimmy Dalidou. Abdellah, je reviens vers vous. Jimmy Dalidou.
D'abord, je remercie Abdellah pour son intervention. Et je reviens sur ce qu'il disait. Il a dit un truc d'important. Abdellah, il dit, je cite, dans cette vie, nous sommes locataires.
Oui, on est tous.
Alors, non, je voudrais réagir par rapport à ça.
Attendez, laissez-le finir.
D'accord. D'accord, si t'accèdes à la propriété, t'achètes ta petite maison, etc., etc., tant mieux. Si le mec y arrive et qu'il peut y arriver, si ses possibilités financières lui permettent d'accéder à une maison, etc., tant mieux. Mais si c'est accéder à une propriété pour t'endetter pendant 30 ans et te faire chier au boulot parce que t'as un crédit sur le dos et que de plus. Non, mais je pense qu'il y a aussi d'autres choses qui sont importantes. L'accession à la connaissance, on parle de l'enseignement.
Bien sûr.
En ce moment, ils étaient dans la rue parce que l'école, c'est le temple de la connaissance.
Absolument.
Donc, l'objectif dans la vie, par exemple, entre autres, l'accession à la connaissance. Être digne, qu'on nous respecte dans les quartiers populaires. Ils veulent être dignes et qu'on les respecte en tant que élément de la population française. Donc,
Abdellah.
C'est important ce qu'il vient de dire, Abdellah. Hein.
Abdellah, merci pour votre intervention, Abdellah.
Une petite remarque.
Oui.
Simplement pour venir à ça. C'est vrai que moi, je suis un pro gilet jaune. Vous savez, moi, je suis à mon compte. Ça va très très bien, alhamdoulilah, grâce à Dieu. D'accord, je me suis battu. J'ai vu que moi, très jeune, j'ai vu que ce que proposaient les sociétés en tant que salariés, c'est nous écraser, nous laisser vraiment que dalle. Comme ils disaient, coluches, ils disaient, regardez.
Vous allez vous entendre avec Jimmy, vous.
Comment?
Ouais, il peut s'entendre avec moi aussi.
Hein. Ouais. Allez-y Abdallah, bon, allez-y, allez-y.
Je disais simplement que Coluche, il le disait bien, il disait que pour les gens qui sont en haut, qui laissent les miettes, il faut remuer la merde, pour que ça leur monte un petit peu au nez, qu'ils sentent ce qui se passe, que vraiment que les gens en bas. C'est vraiment très compliqué. Et vous savez, depuis les Gilets jaunes, je vous assure, avec Macron, ce que j'ai vu, je savais que lui, il allait détruire le schéma sociétal que nous, on a eu comme héritage. Par les anciens politiciens qui faisaient du bon boulot, qui faisaient ça par passion pour protéger la nation. Et ces gars-là, ces générations de politiciens, ils ont détruit notre société, ils sont en train de la détruire. Vous savez qu'avec le Covid, moi, j'en ai rien à foutre. En fait, on peut mourir de tout et de n'importe quoi. Et c'est pas une pandémie. Une pandémie, c'est quand vraiment il y avait le SARS 2013. Lui, il aurait fait des dégâts. D'accord? Il y aurait eu 20% de mortalité. Là, c'est une vraie pandémie. Et là, ce qu'on nous donne, là, ce qu'on nous assène, c'est qu'on nous bloque, on nous neutralise, on met les gens dans la merde. C'est simplement ça qu'ils sont en train de faire.
Bon, Abdallah.
Ils sont en train de casser le schéma sociétal. Et surtout nos enfants. Donc, il faut se battre pour ça. Il faut se battre pour pas les laisser. Il faut les faire chier. Mais
Abdallah, merci pour votre intervention. Non, mais vous avez passé votre coup de gueule et vous avez raison, effectivement. Voilà. C'est aussi ça, la liberté d'expression dans les informés.
Je suis d'accord avec vous.
Il a dit Mille Dalidou, j'aime bien, il a dit bien parler, frérot.
Voilà, merci. Non, mais c'est ça. Nous, on veut bien suivre les
Merci Abdallah de Cergy.
Je m'entends.
Abdallah de Cergy, ne lâchez rien, vous avez raison. 0153483000, ça continue, vous venez débattre. Trois protocoles en 10 jours, c'est du grand n'importe quoi, disent les parents d'élèves, disent les enseignants, y compris les parents qui disent on continue de nous mentir. Eh bien, on revient sur ce sujet. 19h30, c'est le Quad 9.
Les informés, le Quad 9.
La signature de jeudi, vous le savez, c'est la signature de l'IRIS. C'est le patron de l'IRIS, le président fondateur, Pascal Boniface. Bonsoir.
Bonsoir, Adil.
Comment ça va, mon cher Pascal ?
Eh bien, très bien, comme un jeudi.
Vous avez décidé de consacrer votre billet d'humeur à un sujet hautement géopolitique. On vous écoute.
Oui, effectivement. Se sont ouverts lundi à Genève des négociations directes entre Russes et Américains à propos des tensions qui existent de niveau sécuritaire en Europe et à propos de la tension en Ukraine. Alors, ce qui était notable, c'est que c'est des négociations directes entre Russes et Américains pour parler de la sécurité en Europe et il n'y avait pas d'Européens. Ce qui est quand même un peu curieux. Et donc, voilà, ce que l'on peut dire, c'est que lorsqu'on n'est pas à la table des négociations, on est au menu. Et donc, les Russes et les Américains discutent de nous sans que nous soyons là, ce qui n'est pas tout à fait normal et ce qui devrait être jugé comme inacceptable par les Européens. Pourquoi ça se passe comme ça? Du côté de Poutine, c'est assez simple. Poutine est déçu, il a fait une croix sur l'Europe. Il considère que l'Europe suit de façon trop docile et aveugle les États-Unis.
Oui.
Autant s'adresser directement au patron, puisque ça ira plus vite. Quoi, hein, bon.
Oui, c'est un peu ça.
Et du coup,
s'adresser à papa, j'ai envie de dire même.
Oui, voilà. Bon. Et puis, mais on dirait pourquoi les Américains acceptent, puisque si on voit bien l'avantage de Poutine, qui de nouveau, alors que sa puissance n'est pas vraiment si grande, le PIB de la Russie, c'est celui d'Italie, donc c'est quand même pas une superpuissance. Son budget militaire, c'est 8% du budget américain. Et il parle d'égal à égal avec Biden. Il négocie comme au bon vieux temps avec les Américains. Donc, il est gagnant. Il est gagnant. Alors, pourquoi les Américains lui donnent cette victoire? Bien, parce qu'eux aussi sont gagnants, finalement. Ils sont gagnants parce qu'au moment où les Européens pouvaient commencer à avoir des doutes sur la crédibilité américaine, notamment après les débâcles de Kaboul, eh bien, ce qu'il se dit, c'est que, oulala, il y a des tensions en Ukraine, l'URSS, la Russie menace d'une guerre, vite, 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 il faut se réfugier sous l'aile protectrice des États-Unis, qui sont là. Et donc, heureusement, les États-Unis sont là, et les plus attentistes trouvent de nouveaux arguments pour dire que, décidément, il n'y a pas de sécurité en Europe sans les Américains. Donc, résumons l'affaire. Les Russes sont gagnants, les Américains sont gagnants, qui est perdant? Eh bien, les Européens, évidemment. Les Européens, d'autant plus qu'il y avait, par rapport à l'Ukraine, ce qu'on appelait les accords de Minsk, qui avaient été paraffés sous la présidence de l'Allemagne et de la France avec les présidents russes et ukrainiens, donc tout le monde était là. Eh bien là, aujourd'hui, il n'y a plus que les Russes et les Américains, et il n'y a plus d'Ukrainiens, il n'y a plus de Russes, enfin, les Russes sont là, mais il n'y a plus de Français et d'Allemands. Et donc, c'est quand même un peu une gifle pour les Européens. Et une fois encore, moi j'aime bien cette formule, si on n'est pas à la table de négociation, c'est qu'on est au menu. Il faudrait quand même que l'Europe redevienne l'acteur global qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être.
Exactement. Merci pour ce billet d'humeur consacré à la géopolitique, comme chaque jeudi. À jeudi prochain, sans faute, mon cher Pascal Boniface. Prenez soin de vous. 19h34, justement, nous nous retrouvons. C'est la dernière page pub et on se retrouve avec Jimmy Dalidou, Abdeslam Itaj, 0153483000. Vous aussi, le standard reste ouvert.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Les informés avec Adil Farkan.
Les informés, c'est avec Jimmy Dalidou. Les informés, c'est avec Abdeslam Itaj. Les informés, c'est avec vous, partout en France, au 0153483000. Près de 40% des enseignants se sont mis en grève aujourd'hui devant le ministère de l'Éducation nationale pour protester contre quoi finalement ? La pagaille ! Oui, vous avez raison. Rappelez-nous les chiffres. C'est vrai, c'est vrai.
75%.
Les enseignants disent 75% et les autres disent 40%, 38,5%. Alors, Jean Castex, il a reçu les différentes organisations syndicales voilà, qui représentent les personnels de l'éducation nationale. Avant de passer au second sujet, au-delà du ras-le-bol, est-ce que vous pensez que Blanquer va résister, évidemment, ou est-ce que il doit quitter son poste et laisser sa place?
Je pense que c'est pas le poste qui est le personnage qui pose problème. Si, il pose problème, mais en fait, il met en application les directives d'un gouvernement et c'est une politique de classe qui est mise en exergue. C'est une politique de destruction de ce temple de la connaissance qui est l'école.
C'est pas vraiment ce que vous dites.
Non, mais ce que je dis, c'est que ce soit Blanquer ou un autre, ce sera pareil, en fait.
Ouais.
C'est ça le problème.
La République de l'école, elle est quand même belle. Regardez ce que vous. Regardez.
Moi, j'étais au collège Victor Hugo dans la cité 3000 à Aulnay-sous-Bois. J'ai pas vraiment de bons souvenirs, en fait.
Vous n'avez pas un bon souvenir.
Je voyais ça plutôt comme un centre de tri socio-professionnel pour monopole capitaliste. Plutôt.
Ah,
un
il est malin. Clochette.
Plutôt une garderie. Non, mais attendez.
Et quand on regarde l'école des 3000, il y a des gens qui s'en ont.
Je voudrais revenir sur un élément important.
Qui ont réussi, rassurez-moi.
Viens, je veux dire. On a un service public et pas seulement l'école. C'est aussi c'est lié à ces autres castes sociales qui ont été pratiquées à la SNCF, donc dans les transports, chez les gaziers, chez EDF, etc. Et nous, les cheminots, on avait tiré la sonnette d'alarme à l'époque. Au-delà de du service public de ces entreprises publiques, c'est une politique de classe qui est mise en exergue. En fait, c'est
vous
ça dont on parlait.
Ça, oui.
Non, mais bien sûr, j'en suis tout convaincu. On parle de conquête sociale, là. On parlait d'acquis sociaux. Moi, j'aime pas ce terme-là. Je préfère conquête sociale. Conquête sociale du peuple travailleur. Et en fait, c'est ça qu'ils font. Blanquer, il a été fait pour détruire ces conquêtes sociales qui ont été acquis par la lutte
c'est
de classe.
C'est pas du complotisme, là?
Non, c'est pas du complotisme. C'est la lutte des classes. Moi, je garderai ma ligne. C'est la lutte des classes.
Ça vous fait sourire, pourquoi ? Attendez, je reviens vers vous. Mais ça vous fait sourire ?
Moi, je suis admiratif.
Pourquoi ?
J'adore... Jimmy, mais j'adore la naïveté de gauche.
C'est pas de la naïveté
de gauche.
C'est une réalité objective.
Vous l'insultez, là, quand vous dites ça.
C'est une très belle utopie. Non, sur la question de Blanquer, moi je n'ai aucune sympathie.
Vous allez répondre.
Je vais vous
clasher là.
Pas de souci. Non, ce que je te dis, c'est de la réalité objective. C'est la lutte des classes. C'est elle qui a généré notre existence et notre vie sociale. Il faut la comprendre. C'est un mouvement.
Le monde est ainsi organisé sur un système capital où justement le communisme a totalement échoué au niveau mondial et on le voit bien. L'URSS qui s'est fragmenté pour devenir des États séparés. Même si Poutine aujourd'hui a réorganisé la Fédération russe, qui est une sorte d'URSS bis, on voit bien que c'est un système qui a échoué.
Fais comment le lien avec la grève des enseignants d'aujourd'hui, en fait ?
Non, mais la grève des enseignants.
Moi, je te parle des conquêtes sociales qui sont liées à ce qu'a mis en exergue aujourd'hui via des revendications des enseignants.
Les conquêtes sociales.
Tu me parles de l'URSS et de Poutine, en fait, rien à voir.
Mais alors. Tu parlais des fonctionnaires, moi je suis fonctionnaire. Ça fait 30 ans que je suis fonctionnaire et j'ai la notion de service public.
Bravo.
J'ai la notion de service public et je la défends tous les jours. Donc sur ça, je pense qu'on sera parfaitement d'accord sur l'utilité du service public. Ce que je veux juste dire...
Bah non, vous n'êtes pas d'accord parce que lui, il a dit le contraire tout à l'heure.
Non, mais j'ai parlé justement de... Franchement, c'est beau, c'est enrobé dans du chocolat, c'est super beau. On a envie d'y croire. Mais
la lutte sociale, elle est belle, hein. C'est ce qu'on met en exergue dans la rue. Hein.
Non, mais vraiment, c'est.
Il est terrible,
mais j'adore ton optimisme, Jimmy. Vraiment, mais c'est.
là.
C'est un peu bizarre.
Vous êtes utopique.
Non, mais écoute.
Alors,
écoute,
Jimmy Dalidou.
Tu sais bien que, de plus, en ce moment, la lutte qu'il y a eu aujourd'hui, que les enseignants ont mis en exergue aujourd'hui, oui, elle est aussi liée à l'aspect sanitaire de la situation.
Mais pas que.
Toi, tu le vois, tu sais bien. Et qui s'est combiné à un problème qui est bien plus profond chez les enseignants, comme partout ailleurs, c'est ça que je mets en exergue. C'est corrélatif à une politique de destruction. Et en fait, c'est combiné à, au problème de destruction dans les écoles. Non, mais, je voudrais revenir sur un point quand même, sur le fait que, je veux dire, cet après-midi, je discutais avec les enseignants qui sont des camarades qui sont enseignants. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Parce que là, on va revenir à ta boîte de chocolat que tu me parlais tout à l'heure. Laisse-moi finir, tu vois. Qu'est-ce qu'ils te disent, les enseignants? Ils te disent, par exemple, qu'il faut deux choses: étendre les classes sociales, augmenter les classes et embaucher en masse des enseignants. Pourquoi? Parce qu'actuellement, les classes, ce sont des classes hétérogènes. Dans les classes, ce sont des classes hétérogènes. C'est-à-dire que tu as trois catégories d'enfants. Tu as la première catégorie d'enfants qui vont réussir, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, laisse-moi terminer, ils vont y arriver. Pourquoi? Parce qu'ils ont des papas et des parents médecins, avocats. Tant mieux pour eux, ils n'ont pas besoin d'enseignants et ils vont réussir. Non, je termine. Il y a aussi les enfants qui sont les moyens. Ce sont les moyens. On va peut-être y arriver, peut-être pas, ça dépendra. Et ensuite, il y a la troisième catégorie d'enfants qui sont ceux qui, de toute façon, vont pas y arriver. Ils vont finir en prison ou ailleurs.
Sauf s'ils ont la niaque.
Et c'est là que je voulais en venir.
Sauf s'ils ont la niaque.
Sur les classes hétérogènes. Et qu'est-ce qu'ils te disent, les enseignants? Ils me l'ont dit cet après-midi. Les classes hétérogènes, l'école est un marqueur tangible des différences de classe. C'est ça le terme qui a été utilisé. Un marqueur tangible des différences de classe.
Abdeslam Itach.
Jimmy, moi je suis pour la mixité sociale et la société doit être représentée dans son entièreté dans l'école. Et justement, faire que les fils de médecins deviennent médecins ou ce que tu veux réussissent et les fils d'ouvriers finissent en prison, c'est un peu caricatural. Je tiens à te le dire, moi j'ai des amis que je salue d'ailleurs, qui nous écoutent certainement, qui sont médecins, qui sont avocats et qui étaient avec moi, au collège.
Moi, j'en ai des exemples. Dans mon collège, moi, dans le 78, il y en a plein qui sont avocats aujourd'hui, médecins et
complètement
experts comptables.
C'est pas une fatalité.
Et
on peut réussir dans l'école publique. C'est en disant justement qu'on ne réussit pas dans l'école publique qu'il se passe ce qui se passe. Je vais te prendre un
exemple. J'ai pas dit qu'on réussissait pas. J'ai dit que l'école était un marqueur, comme le disaient les camarades cet après-midi, était un marqueur tangible des différences de classe.
Faut qu'on avance, monsieur.
Je veux juste te dire. Pour aller au bout de mon propos, un établissement, lorsqu'il rencontre des difficultés, tu sais ce que font les parents? Eh ben, ils veulent retirer leurs enfants pour les mettre ou dans le privé ou les mettre sur un autre établissement. Et en fait, on met de la difficulté à la difficulté. Et c'est bien ça le problème. Il faut absolument de la mixité sociale. Permettre que les gens vivent les uns avec les autres, pas les uns contre les autres ou pas les uns sur les autres. Permettre à ce que chacun puisse
trouver sa place dans la société.
Je crois que c'est une belle utopie ce que tu
présentes.
Oui,
là, pour le coup, je suis d'accord avec Jimmy. Complètement, là.
Qui avait été justement présenté par Jean-Louis Borloo à l'époque. C'était permettre ça, c'était de mettre justement de
l'action. Mais ça, c'est à l'époque. Il va dans la cité des 3000.
Il a raison, la cité des 3000.
Mais ça, c'est ghettoisé.
En tout cas, l'ANRU 2, aujourd'hui, a cet objectif de justement faire de la mixité sociale, mettre de l'accession à la propriété.
Mais ça, c'était il y a 20 ans.
À côté du logement social. Et l'idée, c'est que vous puissiez même pas faire la
différence. Apparemment, tu fais une fixette sur l'accession à la propriété, apparemment. Pour toi, la fin dans la vie, la fin des fins, c'est forcément l'accession à la propriété. D'abord, on parle de l'école. D'abord, accès à la connaissance. Et ensuite, on parlera de la propriété.
Allez, messieurs, s'il vous plaît, je voudrais vraiment qu'on. Il nous reste quelques minutes. Oh là là, 3 minutes. Hop, j'ai pris du retard. Mais c'est pas mal, le débat est très intéressant. Face aux variants, vous savez quoi? Omicron. Qui, lui, se propage à une vitesse éclair. C'est vrai ou pas? Oui. Vous l'aviez dit, vous étiez assis là.
Oui, et je vous ai donné les chiffres et je suis
pas. Et dans 15 jours, écoutez-moi bien, les amis. Dans 15 jours, c'est pas moi qui le dis, c'est les scientifiques. Dans 15 jours, c'est une personne sur deux qui sera contaminée.
Je vous l'ai dit ou pas?
Si. Une personne sur deux. Que faut-il faire? Une personne, oui, le réalisateur me regarde des grands yeux. Ouais. Une personne sur deux.
Il était là.
Dans 15 jours, c'est une personne sur deux qui sera contaminée. Que faut-il faire? Est-ce qu'on laisse courir? Est-ce qu'on laisse courir le virus?
Tu commences, comme tu veux.
Allez-y, Jimmy, est-ce qu'il faut laisser courir le virus?
Vas-y, commence. Non, mais évidemment, que non, il ne faut pas baisser les bras. Derrière ça.
Est-ce qu'il ne faut pas envisager de laisser courir le.
Absolument pas. C'est inconscient et dangereux pour les personnes qui, justement, sont atteintes de maladies graves, de comorbidités.
Le pic, c'est fin janvier.
Oui, mais il faut absolument résister. Il faut tenir, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas laisser du jour au lendemain.
Le sommet de la vague, il arrive, vous l'avez dit.
Oui, mais bien sûr. Et les chiffres que je vous ai donnés, même s'ils paraissaient. On pourra reprendre le podcast, hein, vous verrez les chiffres.
Non, mais là, c'est un Français sur deux, vous êtes d'accord avec moi?
Oui, on est complètement d'accord.
Une personne sur deux.
Mais Adil, il y a juste une chose. Lorsqu'on vous annonce 200 000 contaminés par jour, d'accord? Il faut additionner tous les jours où il y a 200 000. Pour se retrouver à 1 million, vous comprenez?
Sans ceux, évidemment, que j'oublie qui se déclarent pas.
Bien sûr, et je vous parle même pas des cas contacts. Vous avez 20 cas contacts pour une personne contaminée. Donc ça vous laisse juste imaginer la réalité. Il faut absolument pas baisser les bras. Il faut continuer à protéger les plus fragiles.
Continuer à terroriser les gens, c'est ça que je veux dire.
C'est ça, voilà. Je l'attendais. Je l'attendais. Je le savais. Pourquoi terroriser les gens? Jimmy Dalidou. Il nous reste 2 minutes. Jimmy Dalidou.
Alors je veux juste dire un truc d'abord. Je pense qu'il faudrait garder à notre place. L'homme, l'être humain, c'est un produit de la nature. Nous sommes des produits de la nature. Donc je pense qu'il faut qu'on arrête de penser que sous prétexte qu'on est des êtres humains avec une belle société, qu'on a une belle civilisation, machin, qu'on a créée, qu'on serait au-dessus de la nature. Donc je pense qu'il faut vivre avec, si, un virus, parce que moi je pense qu'il y a un virus effectivement. Mais ouais, que ce virus, ce virus est utilisé à des fins politiques. Et je pense que de toute façon, même si ce virus existe, de toute façon, on peut pas aller au-delà on peut pas se battre contre la nature. En fait, il faut laisser faire les choses. Donc continue à vivre.
Mais
à l'époque, est-ce que les vieux ils crevaient pas à cause de la grippe? À l'époque, déjà, sur BFM TV, ils faisaient tout un pataquès, ils terrorisaient les gens avec les couloirs des hôpitaux qui étaient, non, c'est pas ce que je t'ai dit. Laisse-moi terminer, comme ça tu vas comprendre.
Vas-y.
Déjà, à l'époque de BFM TV et dans tous les médias qui sont des agitations propagandes au service des multinationales, ils étaient en train de terroriser tout le monde l'épidémie de grippe. C'est vrai, je vends ou pas? C'est vrai, c'est la réalité objective.
Ah, mais bon.
Donc c'est exactement la même chose.
Restons factuels.
Je dirais pas qu'il n'y a pas de virus. Je dis qu'il y a une saloperie, une construction politique derrière ce virus Omicron. Et en fait, c'est.
Mais qu'est-ce que vous répondez à des islamistes si vous dites conspirationnisme?
C'est une dictature du capital qui se renforce.
Conspirationniste.
Est-ce qu'on laisse tout le monde se contaminer?
Non, mais les virus ont toujours existé,
oui ou
en fait.
Oui ou non?
Les virus ont toujours existé.
Jimmy, oui ou non?
Le variant, toi-même, tu es un variant, en fait.
Est-ce qu'on laisse?
Tu es toi-même un variant,
promis,
tu sais ça?
Promis, vous reviendrez redébattre.
Ah, avec plaisir.
Franchement, promis. Merci à Jimmy Dalidou.
De rien.
Représentant syndical de CGT et auteur.
Tout à fait.
Merci à Abdeslam Itache, vice-président du Modem dans le département du 95.
C'est ça.
Merci, messieurs. Merci à la réalisation, donc, à Yanis. À demain avec autant de plaisir. On ne lâche rien. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.